l'ultra foutage de gueule.
Une sale gaucher.
Oui, peut-être.
Je suis un rebelle officiel.
Vous êtes à côté, madame Blanc. On ne peut pas dire que vous cassez les gueules.
C'est fantastique.
C'est de la merde.
C'est énorme.
Comme ma bite.
Stop. L'humour a ses limites.
Aujourd'hui, je me penche sur une info relayée par Théo Malini et passée relativement inaperçue dans les médias. À Paris, un homme armé de deux couteaux s'est jeté sur trois femmes et les a blessées.
Paris a été victime d'une attaque terroriste, et d'ailleurs, une attaque terroriste islamiste.
Attention, il est armé ! Attention ! Attention ! Attention !
Première chose, dès le début de la vidéo, Théo Malini évoque un attentat terroriste islamiste. Il va un peu vite en besogne.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Reprenons les choses dans l'ordre. En droit français, la qualification d'acte terroriste repose sur une mécanique juridique précise définie par l'article 421-1 du Code pénal. Pour qu'un crime ou un délit de droit commun soit retenu sous cette qualification par le Parquet National Antiterroriste, le PNAT, la justice vérifie le cumul obligatoire de trois critères légaux. Premier critère, l'acte commis doit faire partie d'une liste strictement fixée par la loi. Atteinte grave aux personnes, homicide, tentative de meurtre, violence volontaire, enlèvement, séquestration ou détournement de moyens de transport. Deuxième critère, atteinte aux biens et au système. Destruction ou dégradation par substance explosive ou incendiaire ou attaque informatique à grande échelle. Troisième critère, infraction environnementale ou sanitaire. Introduction de substances toxiques ou écocides intentionnels. L'acte doit être commis dans le but précis de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Le terroriste cherche à effrayer l'ensemble d'une population ou un groupe de personnes spécifiques, au-delà de la victime directe. Il vise à imposer une idéologie, faire pression sur un gouvernement, déstabiliser des institutions démocratiques ou punir une société par la violence.
C'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller.
Enfin, l'acte doit être directement ou indirectement rattaché à une entreprise terroriste. L'auteur agit pour le compte ou sous l'influence d'un groupe, d'un réseau, d'une organisation établie, exemple Daesh, groupe suprémaciste, réseau clandestin, etc. La loi intègre également le cas des loups solitaires. Un individu isolé peut être qualifié de terroriste s'il prépare ou commet son acte de manière délibérée et autonome pour le compte d'une cause terroriste. Pour qu'une attaque au couteau soit poursuivie sous la qualification d'attentat terroriste par le PNAT, la justice doit prouver l'existence d'une intention politique, idéologique ou religieuse. À ce stade, vous me direz, bah on est bon jusqu'ici, non ? Eh bah pas forcément. Si son discernement était totalement aboli au moment des faits, il est déclaré pénalement irresponsable. Le dossier est classé au niveau pénal et l'individu est orienté vers un internement d'office en hôpital psychiatrique. Le seul fait que dans l'extrait diffusé par Théo Malini, l'homme au moment de son immobilisation par des passants déclare que c'est Allah qui lui a ordonné, ne suffit pas à qualifier son geste d'acte terroriste islamiste.
À la fin, il va se faire intercepter, interpeller par des passants, et il va dire ça aux gens.
Ouais, c'est pas ce qu'il fait. C'est vrai qu'il m'a ordonné.
Il y a pas d'Allah.
Après, il faut bien discerner la dimension juridique du sentiment commun des mortels. Le français lambda n'en a pas grand-chose à foutre de la qualification juridique. Tout ce qu'il retient, c'est que, encore une fois, un homme a tenté de tuer des gens au nom de Allah, donc pour nous, appelez ça comme vous voudrez, ça change pas grand-chose. La dimension administrative nous importe peu.
Allahu Akbar !
Donc, pour clore ce volet, parler d'attaque terroriste islamiste est prématuré, puisqu'on n'en sait pas plus au moment où je vous parle sur les motivations de son auteur. Je décide donc de faire un tour dans les commentaires, sachant précisément ce que je recherchais. L'intervention de musulmans désireux de défendre la RATP, comme dirait Génération Sankara. La religion d'amour, de tolérance et de paix.
Je connais cette théorie, oui.
Et ça n'a pas manqué, j'en ai trouvé. Bon, j'ai dû scroller un peu car ce n'est pas si simple. Théo Malini n'étant pas franchement de gauche et encore moins islamo-compatible, vous ne serez pas étonné qu'une écrasante majorité de son public ait étiqueté fachosphère par la gauche. Il y a le commentaire de Noxu477. Déjà, un mec qui commence son commentaire par frérot, vous savez tout de suite à qui vous avez affaire.
Wesh, comment ça va les fachos? Vous êtes fâchés ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Une constante chez la Nouvelle France, le commentaire est bourré de fautes de français, mais passons la séquence Maître Capello. C'est une stratégie d'évitement classique chez les musulmans et les gauchistes. Ramener l'attaque sur le terrain psychiatrique. Vu le comportement erratique et incohérent de l'auteur, il est en effet fort probable qu'il ait 2-3 soucis psychiatriques, mais quoi qu'il en soit, Il n'en sait rien pour le moment, donc affirmer avec aplomb et sitôt que le mec est malade est malhonnête. Comment ose-t-il dire que l'islam n'a rien à voir avec son acte ? C'est le mec qui a déclaré face caméra avoir obéi à un ordre de Allah, pas nous. On n'invente rien, on constate, c'est tout. Ensuite, il se lance dans un raisonnement fallacieux et malhonnête. Si l'islam avait quelque chose à voir avec son acte, tous les musulmans seraient terroristes. Cette phrase contient deux sophismes. Le premier, le sophisme de la fausse équivalence. Le tout ou rien, en gros.
Y'a plus rien du toutou.
Y'a plus rien du tout, du toutou ?
Du toutou, non, rien.
Alors c'est tout ou rien ?
C'est plus rien, toutou.
Mais merde.
Il pose une logique binaire erronée. Soit l'idéologie est la cause absolue qui pousse 100% de ses adeptes à l'action, soit elle n'a aucun lien avec l'acte. Une idéologie ou une interprétation radicale d'une idéologie n'a pas besoin de convertir 100% d'une population au passage à l'acte pour en être le déclencheur chez certains. On peut faire le parallèle avec n'importe quelle idéologie politique ou croyance. Le fait que tous les militants d'une cause ne deviennent pas de violents extrémistes ne prouve absolument pas que l'idéologie n'a joué aucun rôle chez ceux qui franchissent le pas.
Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout.
Même en admettant l'hypothèse de la maladie mentale, comme le prétend le commentaire, l'idéologie fournit la grille de lecture et la direction à la démence. La folie peut prendre n'importe quelle forme. Si elle s'exprime par une attaque au couteau accompagnée d'injonctions religieuses explicites, c'est que l'imagerie et les dogmes extrémistes ont servi de matériaux pour structurer son passage à l'acte. L'idéologie et la fragilité psychiatrique ne s'excluent pas, elles se combinent. Dire « ce qu'il dit n'a pas d'intérêt » revient à balayer arbitrairement le mobile de l'agresseur. En rhétorique, c'est un refus d'analyser les faits. On choisit d'ignorer la seule justification donnée par l'auteur lui-même, simplement parce qu'elle dérange la conclusion à laquelle on veut arriver. Le deuxième sophisme, celui de l'épouvantail. Le commentateur répond à une affirmation que personne de sérieux ne tient dans le débat public.
Ce gars n'est que des couilleries, voilà.
En prétendant défendre la communauté contre l'idée que tous les musulmans seraient des terroristes, il dévie le sujet vers une position extrême et absurde pour la réfuter facilement. L'enjeu n'est pas de dire que l'ensemble des croyants est une menace, mais d'analyser comment une grille de lecture radicale d'un dogme peut armer intellectuellement ou psychologiquement un individu. En faisant croire qu'évoquer le rôle de l'idéologie équivaut à accuser plusieurs millions de personnes, il cherche à bloquer toute possibilité d'analyse sur le logiciel idéologique de l'agresseur. C'est une tactique de culpabilisation. Transformer toute interrogation sur les motivations religieuses de l'assaillant en une attaque globale contre tous les musulmans, afin de rendre le sujet tabou et d'imposer le silence. Notez le double discours des gauchistes et des musulmans. Lorsque Aboubakar Cissé a été assassiné par un jeune homme issu de l'immigration bosnienne, Olivier Adzovic, en 2025, la qualification de crime islamophobe ou d'attentat a immédiatement été exigée par des militants et des commentateurs de gauche, et la dimension psychiatrique du suspect a été rejetée ou minimisée par une grande partie de la communauté comme une simple tentative d'excuser le racisme. L'ironie est totale. Quand l'auteur d'un crime dans une mosquée est atteint d'un trouble psychotique, comme c'est le cas de Olivier Adzovic qui a été jugé irresponsable de ses actes et placé en HP, ces mêmes commentateurs refusent qu'on parle de simple fou écrit à l'idéologie haineuse. En revanche, quand un individu attaque des passants en disant que Allah lui a ordonné de le faire, il devient soudainement urgent de classer l'affaire dans la catégorie psychiatrie.
Quel culot !
C'est la démonstration que la psychiatrisation n'est pas utilisée comme une réalité médicale neutre, mais comme une variable d'ajustement idéologique pour protéger ou incriminer, selon ce qui arrange leur narratif.
Oh, comme c'est bizarre ! Oh, alors !
Passons à un autre commentaire, celui de Elassri Maxime. Un autre grand classique, c'est pas l'islam.
Eh, je vois ça, ouais.
C'est une réaction d'autodéfense par l'exclusion. Plutôt que de reconnaître que leur corpus religieux peut être interprété, détourné ou utilisé de manière mortifère par certains fidèles, la stratégie consiste à décréter que le criminel n'est pas musulman. C'est le sophisme du vrai écossais poussé à l'extrême. Le groupe se définit comme intrinsèquement bon, donc quiconque fait le mal est automatiquement exclu du groupe par définition. En refusant de voir que le terroriste utilise les mêmes textes, la même liturgie et les mêmes référents qu'eux, ils s'interdisent toute autocritique ou réflexion sur la façon dont ces textes peuvent armer des esprits fragiles ou fanatiques. Par exemple, le terme islamisme a été théorisé et popularisé notamment par des chercheurs et des politiques pour faire une ligne de démarcation étanche entre la foi, l'islam, et l'idéologie politique violente, l'islamisme. Sauf qu'on ne crée pas ce genre de sous-catégorie étanche pour les autres doctrines.
Non, non, non !
Quand un attentat est commis par un suprémaciste ou un extrémiste de droite qui se réclame de la défense de la chrétienté, comme à Christchurch en Nouvelle-Zélande, on parle de fanatisme chrétien. On ne cherche pas à inventer un mot édulcoré pour protéger le terme racine. L'utilisation du mot islamisme sert de bouclier sémantique pour éviter d'interroger la matrice religieuse initiale. Aujourd'hui, les chrétiens ou la culture occidentale d'héritage chrétien acceptent de regarder en face les heures sombres ou les dérives de leur histoire, inquisition, croisade, dérive sectaire, colonisation, etc., sans chercher à prétendre que ça n'avait rien à voir avec le christianisme. Il y a une capacité à admettre qu'un dogme peut engendrer du monstrueux. Il est évidemment plus facile pour les chrétiens d'aujourd'hui de faire preuve d'autocritique, car le terrorisme armé au nom de Jésus est un phénomène extrêmement marginal dans le monde moderne, alors que le djihadisme armé est une réalité sanglante et omniprésente depuis des décennies. L'urgence de la disculpation chez les commentateurs musulmans vient précisément de cette fréquence. Admettre le lien, ce serait admettre un problème récurrent. Le commentateur s'arroge le droit de décider qui est musulman et qui ne l'est pas, en posant une condition de pureté morale. S'il commet un crime, il n'est pas musulman. En sociologie, comme dans l'analyse des faits divers, ce n'est pas aux observateurs ni aux croyants dans l'espace commentaire de distribuer des diplômes de croyance. L'assaillant revendique son acte avec un référentiel précis. Il invoque Allah, pas une autre divinité.
Au nom du Seigneur, je vous botte le cul !
Un militant politique qui commet un acte violent au nom d'un parti ou d'une idéologie reste un militant de cette idéologie, même si le président du parti affirme qu'il a mal compris le programme. L'autorevendication et la grille de lecture utilisée par l'auteur sont des faits objectifs que l'on ne peut pas effacer par un décret moral. La question n'est pas de savoir ce que dit le vrai islam ou si l'interprétation de l'assaillant est valide selon les jurisprudences religieuses. Ce qui compte dans la réalité, c'est que ce corpus religieux sert de carburant et de logiciel de passage à l'acte pour des individus réels ici et maintenant. Même s'il est vrai que l'islam interdit l'assassinat gratuit d'autres êtres humains sur la seule base de leur mécréance supposée, qu'un dogme soit pacifique dans la théorie importe peu face au constat empirique. Certains de ses adeptes y trouvent la justification morale de tuer. Refuser de voir ce lien sous prétexte que l'interprétation serait mauvaise, c'est fermer les yeux sur la façon dont l'idéologie opère dans le monde réel.
Qu'est-ce que le réel ?
De plus, le terrain de l'islam de paix et d'amour qui interdirait de tuer des innocents est piégeux pour les musulmans. Le piège sémantique réside dans le mot « innocent ». Dans une démocratie laïque, un innocent est simplement une personne qui n'a pas commis de crime au sens du code pénal.
Je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent.
Dans un cadre théologique rigide, la définition est totalement différente. L'apostat, par exemple, n'est pas innocent au regard de la sunna, car des hadiths authentiques préconisent la peine de mort pour quiconque quitte l'islam. Quand un commentateur affirme que l'islam interdit de tuer des innocents, il applique un plaquage de valeurs modernes sur une grille de lecture religieuse. En théologie classique, la notion de culpabilité ne se limite pas à des actes criminels. Elle s'étend à des transgressions morales ou religieuses.
Je ne bois pas d'alcool, merci. Ah,
quelle drôle d'idée.
C'est proscrit par ma religion.
Quelle religion peut être assez stupide pour priver ses fidèles d'un tel plaisir ?
La religion musulmane, soit celle de 90% des habitants de ce pays.
J'ignorais. Autant pour moi.
J'aimerais m'attarder sur la dernière phrase de son commentaire.
Tu propages la haine à mon encontre et à l'encontre de tous les musulmans qui sont droits dans leurs bottes, car ce genre de comportement n'a rien à voir avec l'islam, et ton comportement à toi n'est pas normal.
C'est le pompon sur la Garonne.
Cette phrase comporte un paradoxe. D'un côté, il affirme que le criminel n'a rien à voir avec l'islam, et que sa pratique à lui est pure et pacifiste, et de l'autre, dès qu'on critique ou qu'on analyse l'acte du criminel, il affirme que c'est une attaque à son encontre.
Il faudra que tu te décides un jour à choisir.
S'il y a une étanchéité totale entre son islam et celui du terroriste, la critique du terroriste ne devrait pas le toucher. En se sentant visé, il crée lui-même le lien qu'il prétend nier.
La classe mondiale, peut-être même le champion du monde.
C'est un aveu implicite. Il perçoit bien qu'il existe un fil conducteur religieux, culturel ou identitaire, et cette tension interne le pousse à réagir comme si on s'en prenait à sa propre personne. Quand l'identité d'un individu repose de façon hégémonique sur son appartenance à un groupe, qu'il soit religieux ou communautaire, toute critique adressée à un membre de ce groupe est vécue comme une attaque contre le groupe entier, et donc contre lui-même. Ce réflexe cache également une tactique rhétorique très efficace, l'inversion des rôles de la victime et de l'agresseur. En affirmant « tu propages la haine à mon encontre », le commentateur déplace instantanément la gravité du sujet. On ne parle plus des femmes attaquées au couteau dans la rue par un homme parce que Allah lui a ordonné de le faire, mais du préjudice moral ressenti par le commentateur devant son écran. C'est une tentative d'intimidation morale visant à culpabiliser le créateur de contenu ou l'observateur. Le message sous-jacent est
« Si vous analysez cet attentat et ses motivations déclarées, c'est vous le problème, car vous me faites de la peine et vous créez du rejet. »
Franchement, c'est triste. C'est beaucoup triste.
Cela sert à imposer un tabou et à interdire toute discussion sur les causes idéologiques du drame. Chez une personne dont l'identité est construite sur un mode tribal ou communautaire, le réflexe primaire n'est pas d'évaluer la justice d'un acte, mais de protéger le groupe à tout prix.
Team! Team, 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 team. I even love saying the word team. You probably think that's a picture of my family. It's the A-team.
C'est le principe du « mon groupe a raison, qu'il ait tort ou raison ». Défendre le membre du groupe, même indirectement en minimisant son acte ou en déviant le sujet, devient plus important que d'exprimer une compassion sincère pour les victimes extérieures au groupe. Reconnaître qu'un individu a pu trouver dans les textes qu'on sacralise la permission morale de poignarder des passants crée un choc psychologique insupportable, la dissonance cognitive.
Oh là là, wow. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, je suis trop contente.
Pour éviter de remettre en question la matrice théologique, il est infiniment plus confortable de déclarer que le criminel est un fou ou un faux croyant, ou de se poser en victime d'un complot médiatique ou d'une haine anti-musulman. Leur fierté est malsaine. On peut être attaché à sa culture ou à ses origines, mais conserver son libre arbitre. Quant à Réunionnais commet l'innommable, je le condamne sans réserve, et je n'éprouve aucun besoin d'aller expliquer que ce n'est pas un vrai Réunionnais pour me dédouaner moi-même. Considérer que toute remise en question d'un individu menace l'intégrité de tout le groupe empêche toute condamnation nette sans condition et sans déviation rhétorique. Au terme de l'analyse de ces commentaires, un constat s'impose. Face à la violence commise au nom d'un dogme, les réactions d'autodéfense reposent quasi systématiquement sur les deux mêmes mécanismes rhétoriques.
C'est pas l'islam de lumière.
D'un côté, la psychiatrisation à géométrie variable, qui cherche à dissoudre la responsabilité idéologique dans la pure démence individuelle dès que le coupable se réclame de l'islam, alors même que la grille idéologique est immédiatement exigée dans d'autres cas. De l'autre, la défausse théologique est le réflexe identitaire, qui consiste à décréter qu'un criminel n'est pas un vrai musulman, tout en transformant la critique d'un acte atroce en une attaque personnelle contre l'ensemble des croyants. Dans le monde réel, peu importe ce que le dogme préconise dans son interprétation la plus pacifique. Ce qui compte, c'est le constat empirique. Des individus réels utilisent ce corpus précis comme moteur et justification de leur passage à l'acte. Refuser de voir ce lien sous prétexte que l'interprétation serait mauvaise, c'est fermer les yeux sur la réalité du danger. Être réellement droit dans ses bottes, c'est être capable de regarder les dérives commises au nom de sa communauté ou de sa religion, sans chercher d'excuses, sans invoquer de complot, et sans se poser en victime par substitution. La maturité d'une pensée consiste à condamner l'acte et à interroger le logiciel qui l'a permis, plutôt que de chercher à protéger la pureté d'une étiquette. Tant que ces espaces de discussion privilégieront la protection de l'image du groupe sur l'analyse lucide des faits, le dialogue sera impossible et le piège du déni continuera de se refermer. Avant de vous quitter, j'aimerais commenter cette phrase que l'on entend plus ou moins souvent chez les musulmans, à chaque fois qu'une attaque est commise en France ou n'importe où dans le monde. Rokhaya Diallo a déclaré en 2022, et il me semble qu'elle l'ait déclaré de nouveau récemment, je cite
« Quand on est musulman, dès qu'il y a un attentat, on prie pour que la personne à l'origine de l'attentat ne soit pas musulmane. »
Devant un drame, le réflexe naturel et empathique s'intéresse d'abord aux réels et aux victimes. Y a-t-il des morts, des blessés? Qu'est-ce qui s'est passé? L'assaillant est-il neutralisé? Etc. La phrase « on prie pour que ce ne soit pas un musulman » révèle que la toute première préoccupation n'est pas le sort des victimes, mais l'impact médiatique et l'image du groupe. La priorité mentale s'est déplacée du drame humain vers l'auto-préservation identitaire. Cette crainte réflexe montre qu'au fond d'eux-mêmes, ils connaissent parfaitement la réalité du terrain et la récurrence des faits. On ne prie pas par hasard. On redoute ce que la statistique et l'histoire récente rendent très probable. Si le terrorisme au nom de l'islam était un phénomène ultra-marginal ou inexistant, cette pensée ne viendrait même pas à l'esprit au moment d'un drame. L'existence même de ce réflexe est la preuve implicite qu'ils ont conscience du lien récurrent entre ce corpus idéologique et le passage à l'acte. En pensant immédiatement aux retombées d'images avant même de connaître le bilan humain, on commence déjà à se placer psychologiquement dans la position de la future victime, de la stigmatisation, des amalgames, des critiques, etc. Cela crée un mécanisme où la préoccupation pour le préjudice d'image subi par la communauté finit par supplanter la gravité du crime commis contre les victimes directes. On peut rapprocher la déclaration de Rokhaya Diallo avec celle de cette jeune femme suite à l'attaque terroriste islamiste d'il y a quelques jours visant une marche LGBT à Berlin. Elle déclare qu'elle espérait que l'auteur de l'attentat soit une personne blanche chrétienne et regrette que ce ne soit pas le cas. Comme c'est surprenant.
Je savais que les gens devenaient complètement tarés, mais là c'est le summum.
Le fait d'espérer à voix haute ou d'anticiper que l'auteur soit un blanc catholique ou un extrémiste de droite révèle une volonté que le réel se plie à un récit politique préétabli. Dans cette grille de lecture, certains militants ou organisateurs préfèrent qu'un crime soit commis par un profil politiquement exploitable, l'extrême droite classique ou le profil traditionnel, plutôt que par un profil qui crée de la dissonance cognitive, c'est-à-dire un musulman fanatique. Préférer un type d'agresseur plutôt qu'un autre montre que la tension s'est déplacée. Le drame humain passe après la confirmation d'un dogme politique. Si l'auteur est un islamiste, comme ce ressortissant d'origine libanaise lié à l'idéologie djihadiste, le crime devient embarrassant à commenter, car il remet en cause le narratif de la convergence des luttes ou de l'alliance des minorités. On peut lier ce genre de déclaration à cette séquence surréaliste. Il y a quelques jours, lors d'une fête de quartier à Saint-Étienne-du-Rouvray, des riverains répondaient au micro de France TV. Vous verrez que tout ce que l'on a évoqué précédemment à travers divers exemples se vérifie ici encore. Il n'y a que la forme qui change, mais vous comprendrez ce que cachent des mots d'apparence innocente sur la psychologie de ces gens.
C'est triste des deux côtés en fait. Une maman qui perd son enfant, quelqu'un qui perd un frère, une sœur, un proche. Même si on éduque très bien nos enfants, ça peut arriver à n'importe qui. Et on n'a pas le contrôle en fait.
En quelques secondes, cette dame aura déroulé tout le manuel du déni. Tout d'abord, le relativisme moral. C'est triste des deux côtés, dit-elle. Mettre sur le même plan la douleur de la famille de la victime et celle de la famille du bourreau relève d'une rhétorique particulièrement pernicieuse et ce n'est certainement pas une maladresse. En résumant la situation à « c'est triste des deux côtés », l'intervenante efface la notion de responsabilité et de culpabilité. Le terroriste et le père Hamel deviennent virtuellement deux victimes d'un même drame anonyme. C'est une tentative de lisser l'horreur pour éviter de devoir désigner le bourreau et l'idéologie qu'il a armée. Ensuite, il y a l'inversion de l'empathie. Remarquez qu'elle cite d'abord la peine d'une mère à son fils, puis d'une sœur à son frère. Le fils, c'est le meurtrier, le frère, c'est le père Hamel. Là encore, le choix de l'ordre des mots n'est pas le fruit du hasard. Placer la mère de l'assassin en premier lieu d'empathie montre où se situe la proximité émotionnelle de la personne qui parle. Même inconsciemment, son identification va d'abord vers la figure de son propre groupe, la mère du terroriste musulman, reléguant la famille du prêtre assassiné au second plan. La compassion pour la victime n'est rajoutée que dans un deuxième temps, presque par politesse ou par obligation sociale. Et enfin, le dédouanement par la fatalité. « Ça peut arriver à n'importe qui, » dit-elle.
« Non !»
En transformant un acte d'engagement idéologique mortel en un accident de parcours imprévisible, elle opère une dépolitisation totale du crime. Devenir un terroriste qui égorge un prêtre en pleine messe ou qui poignarde des gens dans la rue n'est pas un simple dérapage incontrôlé ou un coup du sort qui tomberait sur une famille comme la foudre ou une maladie rare. C'est le résultat d'un processus conscient d'adhésion à une idéologie radicale alimentée par des textes, des prêches ou des réseaux. Dire « ça peut arriver à n'importe qui », c'est faire croire que la radicalisation islamiste est un risque météo contre lequel personne ne peut rien.
Il fait des petites bêtises comme tout le monde.
Cela permet d'exonérer à la fois l'éducation, la responsabilité individuelle du tueur et le rôle du milieu culturel ou religieux dans lequel cette idéologie a pu germer sans être fermement combattue. Non, cela n'arrive pas à n'importe qui. La réalité empirique, statistique et sociologique montre que les individus qui commettent ce type d'attentat au nom d'un dogme religieux partagent de manière écrasante la même matrice idéologique et le même référentiel.
Allahu Akbar.
C'est une tentative désespérée de banaliser le problème pour éviter de devoir désigner l'unique source du poison. Ce déni, on le retrouve aussi chez la mère d'Adel Kermiche, le principal auteur de l'assassinat du père Hamel. Rappelez-vous, j'en parlais déjà dans une vidéo datant de 8 mois, sur ce reportage odieux de France Télévisions, se penchant sur le cas de proches de victimes de l'islamisme qui se sont rapprochés des proches des auteurs de ces attentats.
Vous allez dire que je suis dans le déni, mais pour moi, mon fils, j'arrive pas à dire que c'est un terroriste parce que c'est un jeune de 19 ans. Il a même pas fêté ses 20 ans et c'était encore un adolescent. C'était, il avait rien vu de la vie. Comment est-ce qu'il peut être un terroriste? C'est pas ça l'islam.
Tu mens.
En refusant d'appeler son fils terroriste, elle recherche désespérément un bouclier psychologique. Pour une mère, et par extension pour un groupe identitaire, accepter que son enfant a consciemment embrassé une idéologie mortifère et égorgé un vieillard sans défense est une réalité humainement insupportable. Elle le présente comme un adolescent innocent qui n'avait rien vu de la vie et à l'écouter, son passage à l'acte était imprévisible. Déjà, elle sait qu'elle est dans le déni, car lorsqu'on évoque l'éventualité qu'on le soit, ça veut dire qu'on sait qu'on l'est. Eh ben, c'est une menteuse. À 19 ans, Adel Kermiche n'était pas un enfant égaré par hasard. Il avait déjà fait 2 tentatives pour rejoindre la Syrie, portait un bracelet électronique et avait un passé d'engagement islamiste documenté. Parler d'un simple ado est une réécriture rétrospective pour substituer la figure du fanatique adulte par celle de la victime d'influence. Quand elle laisse entendre que rien n'était prévisible, ce qui rejoint directement le « ça peut arriver à n'importe qui » de la riveraine, elle nie la réalité clinique et sociologique de la radicalisation. Prétendre que l'acte est tombé du ciel sans aucun signe avant-coureur permet à l'entourage de se dédouaner de toutes ses cités, volontaires ou non, face à la montée du fanatisme sous son propre toit. Bref, je vais m'arrêter là car des exemples de la sorte, je pourrais vous en trouver jusqu'à demain matin et cette vidéo durerait des heures. Les mécanismes sont toujours les mêmes, la fausse équivalence moralisatrice, la victimisation par substitution, et ce déni permanent qui transforme un choix idéologique violent en un simple fait divers tragique ou en fatalité. Je me doute bien que la plupart de ces gens ne sont pas animés d'une attention intrinsèquement malveillante. Beaucoup cherchent juste par réflexe ou par instinct de survie psychologique à protéger l'image de leur groupe ou à adoucir une réalité insupportable, mais l'intention ne change rien au résultat empirique. À force de refuser de regarder le mal en face et de dissocier systématiquement le dogme des actes commis en son nom, on s'interdit toute autocritique et on rend tout débat lucide impossible.
Je vis dans une communauté avec des gosses et d'autres personnes. C'est un jardin d'enfants qui se dit anti-autoritaire. Anti-autoritaire veut dire que les enfants non pas puissent faire ce qu'ils veulent, mais qu'on essaye de développer le plus possible l'autonomie des enfants. Pour moi, ça a été une possibilité de réfléchir sur moi, c'est-à-dire en ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresses, etc. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne.